Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui va garder ce ton pédant et un peu sérieux pour vous rappeler que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art aussi particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans depuis maintenant un peu plus d'un siècle, largement plus d'un siècle même. Ce jour, eh bien, nous allons nous attaquer en 30 minutes chrono et donc fort modestement à un monstre, plutôt une monstresse sacrée du cinéma, peut-être l'actrice la plus connue de tous les temps. Elle était née Norma Jean Mortensen ou Norma Jean Baker, selon les sources, quelque part à Los Angeles le 1er juin 1926. Elle est morte, vous le savez sans doute, si vous avez déjà deviné de qui il s'agit, le 5 août 1962, soit une bien brève carrière pour une actrice fulgurante, en l'espèce Miss Marilyn Monroe, bien sûr. C'est d'elle qu'il s'agit, certainement l'exemple, l'archétype du triomphe de l'artifice sur la vie privée, et plutôt du triomphe tout court cinématographique et d'une vie privée, ma foi, bien chaotique, qui la mena à une mort bien mystérieuse. Donc, je le répète, le 5 août 1962, on hésite presque à évoquer la carrière de Marilyn Monroe, tant elle semble déjà connue depuis ses premiers essais maladroits, et puis avant de commencer au cinéma. Eh bien, sa carrière, si l'on veut, de mannequin, quelque peu scandaleuse, quelques films peu connus, et en 1952, eh bien, quelques films qui vont la révéler au public, parmi lesquels on peut citer, puisqu'on va y revenir tout de suite, Le Chéri, Je me sens rajeunir, Monkey Business in English, d'Howard Hawks, avec à ses côtés Cary Grant, ou plutôt c'était elle qui était aux côtés de Cary Grant. Il y eut aussi cette même année 52 un film avec Fritz Lang, et oui, qui l'aurait dit, Le démon s'éveille la nuit, Clash by Night, et puis un film au titre programmatique, Troublez-moi ce soir, Don't Bother to Knock, de Roy Ward Baker, avant que Miss Marilyn explose littéralement en 1953 avec trois films relativement marquants. Le fameux Niagara d'Henry Hathaway, où elle jouait les épouses, comment dire, intrigantes dans une magnifique robe rouge. Comment épouser un millionnaire, How to Marry a Millionaire, de Jean Negulesco. Et puis, et c'est avec ça qu'on va commencer notre panorama musical. À nouveau, un film d'Howard Hawks dans lequel elle interprète le rôle de Lorelei Lee. Le film, il s'appelle « Les hommes préfèrent les blondes ». C'est pas vrai. « Gentlemen prefer blondes », c'est la chanson. Eh bien, vous allez forcément la reconnaître dans 24 notes secondes.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep Masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight at Tiffany's. Diamonds! Diamonds! I don't mean rhinestones, but diamonds are a girl's best.
Diamonds are a girl's best friend, un extrait de la bande originale des Hommes préfèrent les blondes, un film d'Howard Hawks à côté de Marilyn Monroe, 1953, à côté de Marilyn Monroe, eh bien, il y a Jane Russell et l'histoire rapporte, les chiffres varient, mais la proportion reste que cette année-là, 1953, eh bien, Jane Russell fut payée, allez, on va dire 150 000 dollars et Miss Monroe seulement 15 000. L'histoire rapporte aussi que l'une était grande, Jane Russell, et que l'autre l'était moins, Marilyn Monroe, et que donc à l'une on mit des talons de chaussures réduits, à l'autre des talons de chaussures agrandis, mais que, paraît-il à l'écran, ça se voit quand même que Jane Russell elle est plus grande que Marilyn Monroe, et l'histoire raconte même, et ça je l'ignorais, que le réalisateur, en l'espèce Howard Hawks, voulut faire doubler la voix de Marilyn pendant les chansons. Ma foi, ce ne fut pas le cas, et même si, je ne devrais pas le dire, il y a certainement des grands fans de Marilyn. Marilyn ne fut peut-être pas une très très grande chanteuse, ne fut peut-être même pas une très très grande actrice non plus, mais ma foi, elle se débrouille pas mal, et Diamonds Are a Girl's Best Friend, eh bien, devient très rapidement un must, et cette même année 1953 marque les débuts de Miss Monroe, enfin, les débuts de l'ascension vers la gloire de Miss Monroe, puisque, je l'ai dit, elle est aussi du Niagara de Henry Hathaway aux côtés de Joseph Cotton, qu'elle cherche à faire assassiner, tout simplement, et elle est aussi dans Comment épouser un millionnaire au côté de Betty Grable, la pin-up girl peu connue en France, et de Lorraine Bacall, plus connue pour avoir été la compagne d'Humphrey Bogart au cinéma comme à la vie. 1953 donc, et à partir de là, eh bien Marilyn va enchaîner les succès. Il faut dire que sa vie privée va certainement éclipser parfois sa carrière cinématographique, mais de cette première, la vie privée, nous ne parlerons pas ce jour. On va plutôt écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1954 par Otto Preminger, un western un vrai, dans lequel Marilyn Monroe, jeune fille un peu paumée, rôle qu'elle jouera à plusieurs reprises et qu'elle avait déjà joué avant, se retrouve aux côtés du solide Robert Mitchum. L'histoire dit que sur le tournage du film, eh bien, Marilyn Monroe refusa de parler à Otto Preminger. Il faut dire que ce réalisateur d'origine allemande, ceci explique peut-être cela, n'était pas réputé pour être un des plus tendres avec les acteurs et les actrices, et que Marilyn, cela fait partie de sa légende dorée, eh bien, fut toute sa vie en tant qu'actrice comme en tant que femme des plus fragiles. Le résultat, ma foi, est plus qu'honorable, même si ce n'est ni le meilleur film d'Otto Preminger, ni le meilleur film de Robert Mitchum, ni le meilleur film de Marilyn Monroe. Mais voilà, comme ça vous êtes servi. Allez, on en écoute un petit extrait. River of No Return, Rivière sans retour, dans 24 notes, secondes.
If you listen, you can hear it call. Whalery. There is a river called the River of No Return. it's peaceful and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return, swept on forever to be lost in the stormy sea. I can hear the river call. Return, no return. I can hear my lover call, come to me.
No return, no return.
I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone forever. The river of no return. Whalerie, whalerie, he'll never return to me.
Faire cette voix qui a l'air totalement épuisée, la voix de Marilyn, bien sûr, interprétant la chanson titre de River of No Return, Rivière sans retour, un film de Préminger, comme l'on disait parfois à la Cinémathèque, tourné en 1954 et qui fut une nouvelle étape vers la gloire de Miss Marilyn, qui tourna l'année suivante, en 1955. Peut-être pas son film le plus iconique, mais le film dans lequel il y a la scène la plus iconique de toute la carrière de Marilyn, puisqu'on la voit sur une bouche d'égout, on va dire, ou quelque chose de ce genre, laisser sa jupe ou sa robe, je ne sais plus trop, soulevée par le souffle du métro. Et oui, ça s'appelle « 7 ans de réflexion », « The 7-Year Itch ». Elle y joue tout simplement le rôle de la fille, de même que Tom Ewell y joue le rôle de l'homme. Et vous devinez que c'est l'histoire traditionnelle, mais le tout sous la houlette de Billy Wilder. Billy Wilder, un grand réalisateur, lui aussi comme Otto Preminger, venu de quelque part des pays de l'Est et qui offrit à Marilyn, eh bien, à nouveau un rôle de ravissante écervelée, mais au moins c'était drôle. On ne peut pas en dire autant, par contre, du film tourné en 1956, Arrêt d'autobus, Bus Stop, qui était une sorte de western moderne, mais un peu pesant, signé Joshua Logan, de la même manière que c'est Laurence Olivier qui s'essaya à côtoyer Marilyn Monroe en 1957 dans Le Prince et la Danseuse, The Prince and the Showgirl, avec l'idée, eh bien, de faire jouer leur particularité, leur personnalité très différente. Ma foi, là encore, le tout était un film un peu empesé, avec évidemment des rumeurs d'idylle entre Laurence Olivier, encore mariée à Vivian Leigh à cette époque, et de Marilyn Monroe. On a, à ma souvenance, consacré à ce film un film sur le tournage du film. Ma foi, j'en ai oublié le titre. Si ça me revient, je vous en ferai part. On va écouter maintenant un extrait de la bande originale de ce qui est sans doute le chef-d'œuvre, en tout cas à mon sens, de Marilyn Monroe, et certainement l'un des films les plus drôles de tous les temps. En tout cas, c'est le film dans lequel il y a la réplique la plus drôle de tous les temps pour les cinéphiles. Ça s'appelle Nobody is Perfect. On l'entend à la fin du film. Le film lui-même, il s'appelle Certains l'aiment chaud, 1959, avec Marilyn et son ukulélé, avec Tony Curtis et Jack Lemmon déguisés en filles dans un orchestre de filles pour échapper à la pègre ou à la mafia, je ne sais plus trop. C'était drôle, 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 évidemment. On y retrouvait quelques chansons, donc on s'en écoute un petit extrait. Billy Wilder, un chef-d'œuvre. Voyez-le si ce n'est pas fait. Ça s'appelle en anglais Some Like It Hot.
I got a fever and inflammation, that's what I got. You turn the heat on me, some like it hot. Look what you started, a conflagration, baby, that's what. don't let the flame go out. Some like it hot. Oh, baby, I'm from that old school. I play it real cool. But when you kissed me, I lit up like a four-alarm fire. Call out the engine, ring up the station. I'm on the spot. Love burns you up the most, like it or not. But baby, I like it hot.
Ah, c'est dommage, c'était trop court. Pourtant, le film, eh bien, c'est un chef-d'œuvre. Je vous l'ai dit, Some Like It Hot, Certains l'aiment chaud, un film de Billy Wilder, Jean Bafouille, tourné en 1959. Et je vous l'ai dit, avant d'en écouter un petit extrait, on y trouvait une réplique culte, puisqu'en fait, pendant tout le film où presse, Jack Lemmon et Tony Curtis se font passer pour des filles. Qu'au bout d'un moment, Tony Curtis se révèle à Marilyn Monroe pour bien lui faire comprendre qu'il n'est pas une fille, mais que par contre, Jack Lemmon a beaucoup plus de mal à en convaincre un milliardaire qui s'est entiché d'elle. Et à la fin, n'en pouvant plus d'arguments, il lui dit « Eh bien, je suis un garçon », ce à quoi l'homme, sans se démonter, lui répond « Nobody is perfect ». Vraiment une leçon de vie pour un film vraiment qui n'a pas vieilli, pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps. Une mécanique du rire orchestrée par ce grand maître, ce grand grand maître qui était Billy Wilder, et l'occasion pour Marilyn eh bien, de jouer un rôle vraiment très très drôle, même si là encore on peut le regretter. C'est à nouveau dans le côté écervelé qu'elle fait merveille. 1959, eh bien, je vous l'ai dit funèbrement en ouverture de cette émission, il ne reste plus à Marilyn que 3 ans à vivre et 2 films entiers à tourner. On va écouter un extrait de la bande originale de chacun d'entre eux. Le premier, il est tourné en 1960, ça s'appelle Le Milliardaire, Let's Make Love in English, un film qui est confié aux bons soins de George Cukor, un très très grand réalisateur du cinéma américain, qui, sauf erreur de ma part, a débuté peut-être même au muet, plus connu d'ailleurs pour être un cinéaste de femme qu'un cinéaste d'homme. Et en l'espèce, eh bien, il fit merveille pour apprivoiser la fragile, de plus en plus fragile Marilyn, qui avait de plus en plus de mal à supporter sa célébrité presque indécente et la façon dont le moindre fait et geste de sa vie privée était épié. Il en fut d'ailleurs, ce fut d'ailleurs le cas sur le tournage du Milliardaire, puisqu'on lui prêta une romance avec l'acteur vedette de ce film qui n'était rien moins que notre Yves Montand national. Et oui, c'était Yves Montand qui tournait aux côtés de Marilyn Monroe et qui prouvait là encore ses talents de danseur et de chanteur en plus d'acteur. Tout à l'heure, on a entendu Diamonds Are a Girl Best Friend, qui était une des chansons phares des Hommes préfèrent les blondes. Et bien là encore, il y a une chanson phare dans Le Milliardaire, Let's Make Love. Je vous laisse la découvrir, un extrait de la bande originale de ce film, un film de George Cukor, dans 24 notes secondes.
Supposed to play with boys. Mon cœur est à papa. You know, le propriétaire.
Ba 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 ba
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so ba da ba da ba da ba da ba da ba da dee da ba 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 da. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Shook-a-dook-a-doo, shook-a-dook-a-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da, 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 da-da. Yes! My heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy. 'Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Ow! That little old man, he just treats it so good.
My Heart Belongs to Daddy, un extrait de la bande originale de Let's Make Love, en français Le Milliardaire, l'avant-dernier film de Miss Marilyn Monroe, un film réalisé par George Cukor, avec dans le rôle masculin principal, eh bien, Yves Montand, notre Yves Montand, à nous pour un film dont Marilyn fut, apparaît-il, peu satisfaite. Il faut dire qu'elle était engagée dans une spirale d'échecs qui va très rapidement la conduire d'une part à son dernier film dont nous allons écouter, pardonnez-moi, un extrait de la bande originale. Et cette fois, il ne s'agit pas d'une chanson, ça s'appelle en anglais Les Désaxés, en français, pardonnez-moi, Les Désaxés, en anglais The Misfits. Le scénario en était signé d'Arthur Miller, dont peut-être personne n'ignore qu'il fut l'un des maris de Marilyn Monroe. Le réalisateur en fut John Huston, et le film est marqué par la légende noire d'Hollywood, puisque, aux côtés de Marilyn, dont ce fut le dernier film entier, on retrouve Clark Gable, et oui, l'homme d'Autant n'emporte le vent, qui mourut quelques semaines après la fin du tournage, le 16 novembre 1960. Quant à Monty Clift, l'autre acteur masculin de cette histoire assez tragique, eh bien, lui aussi mourut 2 ou 3 ans après, était déjà très très malade. Bref, une ambiance sombre pour un film qui ne l'était pas moins, où l'on voyait Clark Gable et Montgomery Clift attraper des chevaux sauvages pour les asservir. Méditation bien évidemment sur la condition humaine. Un film dont le tournage fut extrêmement difficile. Et Marilyn Monroe engagea l'année suivante, en 1962, le tournage d'un dernier film dont tout le monde, et donc moi après tout le monde, a souligné le caractère prémonitoire de son titre. Ça s'appelait « Something's Got to Give », « Quelque chose doit craquer ». Et de fait, dans la nuit du 4 au 5 août 1962, Miss Marilyn Monroe quitta cette vallée de larmes pour un monde qu'on espère meilleur, laissant ce film inachevé. On va rester avec la musique, bien sûr. En l'espèce, elle était du grand Alex North. La musique des Désaxés, The Misfits 1961. Goodbye, Marilyn. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.